Pour cette dernière émission de cette saison de La Fabrique de l'Histoire, nous avons décidé d'être résolument internationaux et de vous parler d'abord de la Suisse et ensuite du Japon. En première partie de la fabrique de ce jour, nous recevrons dans la séquence mensuelle la fabrique mondiale de l'histoire que nous réalisons avec le mensuel d'histoire et Valérie Hanin, la directrice de la rédaction, l'historien Thomas Meissen, directeur de l'Institut historique allemand à Paris et auteur dans un des derniers numéros de l'histoire d'un article sur la façon dont les Suisses racontent leur histoire justement. Puis nous partirons en Suisse, à Genève, où enseigne Pierre-François Souhiri, spécialiste de l'histoire du Japon, lui. Il vient de publier chez Gallimard dans la bibliothèque des histoires moderne sans être occidentale, une réflexion sur la modernité japonaise des années 1860-1920. Bonjour Valérie Hanin.
Bonjour Emmanuel.
Et exceptionnellement, nous ne parlerons pas du numéro spécial été qui vient tout juste de sortir. Il est sorti hier dans les kiosques, qui est un numéro double de l'histoire sur le monde est à nous, sur le 19e siècle, dans lequel on va voyager dans tous les espaces géographiques du monde entier avec cette ouverture mondiale qui est la période du 19e siècle.
Absolument. Hein, c'est un numéro sur l'appropriation du monde par les Européens, mais pas seulement par les Européens au XIXe siècle, par les hommes, et avec une forte ouverture sur l'aventure, la géographie et des choses que l'on n'a pas toujours l'habitude de traiter dans la revue L'Histoire.
Et ce qu'on appelle la mondialisation du XIXe siècle. On y parle de Suez, de Panama, de Ferdinand Lesseps, de Cook et d'autres. Mais nous avons choisi aujourd'hui de mettre l'accent sur un article paru donc dans l'Histoire, dans le numéro du mois d'avril, pour un pays qui, a priori, n'apparaît pas comme cela, comme au cœur de l'espace mondial, et qui pourtant l'est, à savoir la Suisse. Comment les Suisses racontent leur histoire. C'est un article que vous avez écrit. Thomas Meissen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut historique allemand à Paris depuis 2013. Vous avez récemment publié un livre qui, en allemand, donc s'appelle « Ce qui se cache derrière les histoires héroïques de la Suisse ». C'était l'année dernière. Et vous allez publier d'ici l'année prochaine, enfin bientôt, très bientôt, une histoire de la Suisse qui paraîtra aux presses universitaires du Septentrion. Et donc, comment les Suisses racontent leur histoire, c'est la façon dont les Suisses se sont imaginés au milieu du monde, au milieu de cette Europe, depuis maintenant 5 ou 6 siècle, Valérie Hanin.
Absolument, cette histoire nous a beaucoup intrigués. Ne nous fions pas en effet aux apparences. Vivant sa prospérité à l'écart des tumultes du monde, la Suisse est pourtant bien loin d'être un pays sans histoire. L'année 2015, d'ailleurs, année de commémoration multiple pour la Suisse, à commencer par celle de Marignan, a même soulevé d'assez violentes controverses, et vous y avez participé à votre manière, Thomas Meissen. En interrogeant notamment le carré magique des notions auxquelles les Suisses sont si attachés et qui fondent leur identité, selon eux, on verra si jusqu'à quel point c'est vrai, la liberté, le serment, la neutralité et la démocratie. Commençons par les origines. Au fond, c'est l'histoire, c'est la seule histoire qu'on connaît en France. Elle nous a été racontée par Schiller. En 1307, un arbalétrier du nom de Guillaume Tell refuse de se soumettre à l'autorité du bailli autrichien du Riz, Hermann Gessler. En représailles, celui-ci l'oblige à tirer un carreau d'arbalète, une flèche, dans une pomme posée sur la tête de son fils. Guillaume, bien sûr, on le sait, parvient à atteindre la pomme, mais défie ensuite le bailli en affirmant qu'il était prêt à le tuer s'il avait échoué. Il est arrêté, il profite d'une tempête sur le lac pour s'enfuir et il assassine Gessler. Alors cette histoire n'a absolument aucun fondement historique. C'est cependant le mythe auquel les Suisses continuent un peu d'être attachés, en sachant que c'est un mythe, mais qui recoupe d'autres batailles, qui racontent toujours un peu la même histoire. C'est-à-dire une histoire d'homme libre qui secoue le joug d'une tutelle étrangère, a priori surtout celle des Habsbourg, qui sont l'ennemi juré. C'est ainsi que les Suisses racontent leur origine. Qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans, Thomas Meissen?
Oui, je pense qu'en tant que Française, on vous pardonne que vous connaissez seulement cette histoire mythique. Le problème, c'est Vous savez que les Suisses aiment bien les référendums. Si on faisait un référendum sur l'existence réelle de Guillaume Tell, oui ou non, il y aurait une majorité pour. Donc c'est pas encore
en
aujourd'hui
Suisse.
En Suisse. Oui, bien sûr, hein, en Suisse, parce que d'ailleurs il n'y a pas de référendum. Donc ça c'est déjà un aspect de l'identité suisse. Donc il y a une très peu de connaissances historiques en Suisse et ces quelques connaissances limitent à un Moyen-Âge idéalisé, Moyen-Âge comme vous venez de dire, qui consisterait dans la lutte anti-habsbourgeoise, lutte militaire, dans des batailles, puis plus tard contre les Bourbons, Charles le Téméraire, plus tard les Français, Napoléon, les années 1798. Et notamment au XXe siècle, c'est l'Allemagne hitlérienne, le Troisième Reich. C'est un peu cette idée. Et puis la guerre froide, bien sûr. Moscou, il a cette idée d'une Suisse qui s'est toujours défendue contre des envahisseurs, des empires, les méchants qui sont à côté. Et dans ce sens-là, Emmanuel, si je peux corriger, c'est une idée plutôt de dire on n'est pas au centre du monde, on est hors de ce monde politique.
Oui, c'est ça,
c'est très important de dire grâce à nos ancêtres qui se sont défendus déjà contre les Autrichiens, la Suisse a réussi d'être dehors. Or, cette histoire que Valérie vient de nous raconter a été inventée, on a pu dater assez précisément dans les années 1470. Et déjà là, c'est une référence à des origines autour de 1300. Donc il y a un décalage de presque 200 ans à l'époque. C'est à comparer peut-être aux origines troyennes de la France ou des Francs, où on s'est inventé des origines mythiques. La seule différence, c'est que les origines troyennes de la France, pendant la Renaissance, au XVIe siècle, on a cessé d'y croire. Tandis que le succès de Guillaume Tell n'a pas cessé, même grâce à Friedrich Schiller, ça a continué encore. Et il y avait un moment, je dirais, 18e, c'était le premier auteur qui a dit que c'était une invention. Au 19e siècle, la recherche historique en Suisse a très bien prouvé que c'était pas une vraie histoire. Mais pendant la guerre froide, ou déjà contre la défense spirituelle, contre l'Allemagne, c'est un mot, disons, connu pour tous les Suisses, c'est la défense spirituelle qui a souligné l'importance de l'histoire suisse et du passé. On a pratiquement rendu vivant Guillaume Tell de nouveau, et les gens, jusqu'ici, ils y tiennent beaucoup, même ils y croient.
Alors, ce qui est intéressant, si on fait le parallèle avec la façon dont l'histoire de France nous a été racontée, en particulier par le petit Lavis à la fin du 19e siècle, c'est qu'il y avait une vision de réconciliation. Tous les historiens qui travaillent sur le 19e siècle nous l'ont raconté. Après la fracture de la Révolution française, il fallait trouver un moyen de retisser le tissu national, donc, et d'aller chercher certains rois, certains antécédents à la Révolution française dans l'histoire qui précédait cette même révolution. Ça n'est pas le cas pour la Suisse, et donc c'est un peu peut-être plus compliqué à comprendre comment se tissent justement ces idées au fur et à mesure de ces siècles entre le 14e dont vous nous parliez et le 19e ou le 20e siècle.
Mais c'est comparable dans le sens qu'il y a une double déchirure qui est très importante. D'abord la réforme, donc il y a protestants et catholiques qui s'haïssent, c'est presque impossible de continuent de vivre ensemble pendant l'époque moderne. Et puis, il y a une déchirure qui mène même à une guerre civile de 1847 entre les libéraux et les conservateurs étant pour la plupart catholiques, mais pas tous. Et ces conservateurs avaient leur base fondamentale dans ces cantons Uri-Schwitz und Wallen, donc le centre de la Suisse, Lucerne. Et puis, on a pratiquement réintégrer les conservateurs catholiques en recréant ce mythe. Donc il y a d'un côté, il y a cette histoire complètement mythique de Guillaume Tell. De l'autre côté, il y a un autre aspect, c'est le premier traité de confédération de 1291 qui est... Ça, c'est un document qui existe. Donc là, c'est pas une question de mythe, mais c'est un document qui n'a pas créé la Suisse. C'était une petite alliance de quelques villages, même de campagne, qui se sont mis ensemble pour essentiellement gérer des problèmes de sécurité, de maintenir le pouvoir des élites dans cette région.
C'est la date pourtant qui a été choisie au XIXe siècle. Elle avait l'avantage sur Guillaume Tell d'être une date en effet réelle, vous venez de le dire, avec des sources qui l'authentifiaient, mais c'est un serment parmi d'autres. Mais c'est la date qui a été choisie pour la grande commémoration de 1891, donc 600e anniversaire, et qui donne naissance à la fête nationale suisse. Mais pourtant, vous nous dites, elle n'est pas vraie. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est un serment parmi d'autres.
La date est vraie, comme j'ai dit, il y a le document. Oui. Qu'on se raconte autour de la date, c'est là on a mélangé beaucoup le mythe donc de Guillaume Tell nouveau et ce qui est réel c'est très peu. On a ce document, on sait peu sur la raison, le contexte, qui a vraiment signé, et donc la plupart des Suisses mélangent ce document avec le récit, pas proprement de Guillaume Tell, mais le récit du serment des trois confédérés, du Grütli.
Les trois cantons originaires.
Et je pense que là, vraiment, franchement, sur un référendum en Suisse, vous auriez une majorité de 90% disant que en 1291, trois Suisses se sont réunis au Grütli pour prêter le serment. Ça, c'est pas du tout le cas. Il n'y avait jamais un serment au Grütli. Ce traité de 91 s'est fait probablement dans une maison. C'était pas rien de caché. C'était pas une conspiration. C'était juste des élites de cette région qui se sont réunies. Ce qui est important, bien sûr, pour l'histoire de la Suisse, c'est le fait du serment lui-même.
La confédération
en allemand, c'est Eidgenossenschaft. Eidgenossenschaft, c'est justement le fait de prêter serment. Et bien sûr, les Suisses, c'était une alliance de 13 cantons à la fin du Moyen-Âge. Et ces 13 cantons, ou leurs représentants, se sont prêtés serment régulièrement. Donc il y a ce côté absolument important pour la naissance de la Suisse, mais ça n'a rien à faire avec justement le serment au Grütli qui n'a jamais existé.
Alors ce que vous nous racontez dans cet article de l'Histoire, et ce que vous nous raconterez, donc Thomas Meissen, dans le livre Apparaître aux presses universitaires du Septentrion, c'est comment en fait, là où beaucoup de Suisses voient une sorte d'histoire un peu immobile, il faut la faire rentrer à chaque fois avec des contextes différents, des contextes qui sont des contextes politique, de politique interne ou de politique internationale, qui ont constitué cette croyance des Suisses dans leur mythe éternel, d'une certaine façon, Thomas Meissen.
Tout à fait. Je pense que l'important, c'est de voir que ce pays est lié, pas seulement politiquement, mais surtout dans son économie, beaucoup lié dès le début à l'étranger, que ça pouvait pas être une société autonome, autarque, du tout, bien qu'il y ait cette idée jusqu'à aujourd'hui, si on pense à la neutralité, si on pense à la Suisse à adhérer aux Nations Unies en 2002 seulement, ce qui prouve qu'il y a cette volonté de rester dehors de tout ce qui est politique. En même temps, les commerçants suisses, depuis le 13e, 14e siècle, ils ont exporté les vaches, le fromage, les mercenaires. Donc c'était et ils ont importé beaucoup parce qu'il y avait pas assez de blé, par exemple, le sel. Donc c'était incontournable de s'intégrer dans le monde tel qu'il était. Mais il y a eu un grand problème pour les Suisses de l'accepter.
Valériane.
Parmi les mythes et parmi les paradoxes, le moindre n'est pas celui de la neutralité. Parce qu'on a quand même affaire à un pays qui est un pays de soldats, un pays de gardes suisses, les gardes suisses de Charles Quint qui faisaient si peur aux soldats de François Ier à Marignan, et les gardes suisses qu'on trouve partout en Europe, qui ont été les derniers de la garde rapprochée de Louis XVI en 1792 aux Tuileries, au point de se faire massacrer pour le protéger. Ce pays de soldats, qui est un des derniers en Europe à avoir un service militaire, est un pays neutre et qui est devenu un symbole du pacifisme. Genève, le premier thème apparaît comme une capitale de la paix. Le premier thème choisi par le Festival de Genève, d'ailleurs en 2014, Festival d'Histoire de Genève, c'était la paix, construire la paix. Alors, quel rapport, pouvez-vous nous aider à élucider quand même ce paradoxe qui n'est pas petit, quel est le rapport des Suisses avec la guerre et avec la paix, et qu'est-ce que ça veut dire la neutralité, d'où vient-elle vraiment?
Oui, c'est intéressant parce que ce paradoxe, pour un Suisse, il dirait même pas que la Suisse est identifiée à la paix dans le sens donc Genève comme centre de la paix. C'est une vision des Suisses d'eux-mêmes d'être d'avoir toujours été très guerrier et prêt à la guerre. Pacifique, oui, mais pas des pacifistes. Pacifique parce qu'il n'était pas prêt à attaquer les étrangers ou les voisins, mais essentiellement pour des raisons de faiblesse militaire. Donc c'était même pas possible de le faire. Donc il y avait une décision qu'on peut dire rationnelle de ne pas faire de politique étrangère depuis Marignan, depuis le XVIe siècle. Il y a une, c'est le moment là, ils n'ont pas lutté pour Charles Quint, ils ont lutté vraiment pour les confédérés eux-mêmes. Ils ont fait une politique de conquête, ils ont conquis le Tessin, ils ont conquis le Pays de Vaud, donc des régions souvent de langue française ou de langue italienne qui sont devenus des sujets des confédérés. Et ça, c'était un peu le moment d'arrêt. En 1536, le Vaud a été conquis par les Bernois et à ce moment-là, le territoire était essentiellement le territoire qu'on connaît encore aujourd'hui. Et le paradoxe, d'un côté, guerrier, donc on exporte la guerre. On ne la fait pas soi-même.
Avec les mercenaires.
Avec les mercenaires qui sont achetés, surtout en France, mais aussi dans d'autres pays, sont loués et sont même intégrés dans des armées, donc formellement intégrés. Il y a encore, pour le pape jusqu'à aujourd'hui.
Les gardes suisses.
Les gardes suisses. Ça, c'est combiné dans une façon qui n'a jamais été conçue comme paradoxe par les Suisses avec une politique officielle de neutralité. Cette politique officielle ou cette idée de neutralité s'est imposée à partir de la paix de Westphalie, 1648, dans un système international. C'est très important de le rappeler de nouveau aussi aux Suisses, parce qu'ils pensent que c'est une décision qu'ils ont pris eux-mêmes ou que nos ancêtres ont pris eux-mêmes. Non, c'est pas ça. C'est une possibilité qui a été donnée à ce pays de se limiter justement à ce rôle de fournisseur de mercenaires. C'est un rôle qui a été puis 1815 dans les traités de Vienne et de Paris explicitement confirmé par les puissances qui ont dit la neutralité suisse est dans l'intérêt de l'Europe. Donc il y a un intérêt d'un côté tampon entre l'Autriche et la France, plus tard entre l'Allemagne et la France. Donc il y a un peu comme les Pays-Bas ou la Belgique, ce rôle du tampon. En même temps, il y a l'attente que la Suisse, d'abord les mercenaires, mais au 19e, 20e siècle, c'est plutôt ce que vous aviez évoqué, Emmanuel, tout à l'heure, c'est les services que la Suisse a pu rendre, Genève, Croix-Rouge, aussi un lieu d'échange, d'endroits où on peut se rencontrer pendant la Première Guerre mondiale, l'espionnage et tout ça. Donc il y a un petit trou en Europe où on a dit laissons la Suisse faire ce qu'elle peut faire, ce qui n'était jamais un accord avec tout le monde. Donc on ne savait pas en 1939 si Hitler allait respecter ça ou s'il passerait par la Belgique ou les Pays-Bas ou par la Suisse. Donc ce n'était pas un accord fixe, mais c'était un peu une expérience qui a bien fonctionné, pas seulement pour les Suisses, mais pour les puissances européennes aussi.
Alors, une des questions que l'on découvre en vous lisant, c'est comment on va puiser dans le passé des raisons pour justifier des moments actuels, donc en l'occurrence, par exemple, comment la démocratie suisse justifie-t-elle dans son passé le travail autour de la concorde, l'idée qu'il ne faut pas de pouvoir fort, par exemple, etc. Et évidemment, il y a des contextes de naissance de cette démocratie suisse et des contextes de référence auxquels on fait référence dans un passé lointain pour pouvoir justifier justement que de toute éternité, la Suisse a été comme cela, Thomas Meissen.
Oui, je pense que l'important de comprendre la différence entre démocratie prémoderne et démocratie moderne, c'est qu'il s'agit de défendre ou de penser une liberté collective en époque moderne. Et je pense que cette idée est encore très forte, une communauté communal surtout, donc qui se défend. Et là, il y a les hommes qui décident, parce que les hommes, ils nourrissent leur famille, ils font la guerre si c'est nécessaire, ils sont le chef de famille. C'est une raison pour laquelle la Suisse a introduit le suffrage féminin seulement très tardivement, en 1971.
Ça lui est beaucoup reproché, oui.
On l'a beaucoup reproché, mais bon. Oui, en France, c'était 46, donc la différence est moyenne, mais réelle. Oui. Donc, bien sûr, c'est pas, donc il y avait d'autres pays qui étaient les prédécesseurs. Tandis que les, justement le concept de liberté individuelle et donc du suffrage universel de tout le monde, c'est un concept essentiellement de la révolution américaine et française. Et pour les Suisses, cette idée de démocratie est quand même très étroitement liée à l'autonomie de la commune, donc à un système fédéral, fédéraliste, où on s'est mis ensemble, les Genevois et les Tessinois et les Balois, pas parce qu'on s'aime profondément, mais plutôt pour défendre des privilèges communs, des privilèges qui ont été acquis à l'origine dans le contexte du Saint-Empire romain. Donc il y a encore aujourd'hui, les gens n'en sont pas vraiment conscients, mais il y a encore un peu une idée médiévale, féodale, de privilèges à défendre en commun derrière la démocratie.
Valériana.
Et puis au XVIIIe siècle, cette république parmi les monarchies d'Ancien Régime, hein, ces petits cantons ruraux qui faisaient l'admiration de Rousseau, au fond c'était vraiment une démocratie. De quoi sont-ils si fiers dans cette démocratie? Quels sont les modèles qu'on pourrait aller y chercher? Le référendum, le vote, l'égalité de tous?
Oui, je pense que Rousseau avait tout à fait raison pour le XVIIIe siècle. Donc il y avait peu de... Il parlait surtout de Genève, mais il admirait aussi justement les paysans qui se réunissaient sous un arbre pour discuter ensemble. Il n'y avait pas d'autre modèle démocratique plus ou moins fonctionnant en Europe. Donc s'il pensait à la volonté générale, au suffrage universel, c'était ça. Ceci dit, c'était une démocratie qui était gérée par des élites. Dans les villes, c'était une élite très restreinte. Dans les cantons ruraux, c'était un groupe majeur. Mais comme j'ai dit, il y avait toujours des sujets, il y avait beaucoup qui en étaient exclus. Dans ce sens-là, il y a une continuité démocratique pour la Suisse, qui en est très fière, qui a élargi ce concept de démocratie moderne, libérale, en introduisant la démocratie directe, donc le référendum, l'initiative, les votations sur beaucoup de questions. Et là, je pense qu'il y a de nouveau, si on faisait un référendum, si c'est une bonne chose pour la Suisse, il y aurait même 99% qui seraient d'accord. La différence, et je pense que le problème de modèle, on voit très vite que c'est une forme de gouvernement très conservatrice. Donc le référendum, c'est essentiellement pour empêcher et pas pour faciliter. Les Suisses peuvent même participer à la politique étrangère. Donc les traités internationaux doivent être soumis au souverain. Donc le souverain en Suisse, c'est toujours, on entend, pas souverain, le peuple. Et donc pour faire la guerre, pour intervenir au Mali, chaque fois de demander l'avis d'une majorité, ça prend beaucoup de temps. Je pense que la Suisse, c'est pas seulement une question de la démocratie, c'est une culture politique qui est basée sur la négociation. Par contre, en France, où on le voyait tous les jours, le président décide, ou le ministre décide, on impose une loi par article 49.3 ou autre mesure, et puis on attend. On attend s'il y aura une grève nationale ou si les paysans bretons vont bloquer les rues. Et s'ils bloquent assez bien, on va retirer la loi. Et si la grève ne persiste, elle passe. En Suisse, on négocie pendant des mois, des années. Et il faut négocier parce que à la fin, il y aura le référendum. Si on n'a pas bien négocié, ce sera un non. Donc ça, c'est, je pense, au niveau de la France déjà, mais d'autant plus au niveau européen, toutes ces procédures ne sont pas possibles, ou n'étaient en tout cas pas possibles, pour élaborer un État ou une confédération comme la Communauté européenne.
Mais alors cette Suisse qui gère le plurilinguisme et qui gère la démocratie directe et qui peut à cet égard apparaître quand même comme un modèle de démocratie, même si démocratie ne veut pas dire forcément progressisme, comme vous venez de nous le dire, pourquoi n'est-elle pas dans l'Europe ?
Pas justement pour défendre ses droits, moi je dirais plutôt les privilèges de l'autonomie des communes, des cantons. Vous voyez un petit canton comme Obwalden, ce sont quelques dizaines milliers d'habitants qui ont un pouvoir très fort dans le contexte suisse grâce au fédéralisme qui fonctionne un peu comme le modèle américain. Donc il y a, comme le Sénat, il y a une deuxième chambre qui est très forte et ils peuvent bloquer beaucoup. Donc surtout ces petites vallées en Suisse, mais aussi beaucoup de cantons mineurs, ils ont beaucoup à perdre dans une Europe où les décisions sont prises ailleurs. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours été aussi très résistants à une centralisation dans le contexte suisse. Donc ils sont fédéralistes contre Berne, ou même les villages sont fédéralistes contre Lausanne, par exemple, mm-hmm. dans le contexte cantonal.
Une des questions qu'on peut se poser, pour conclure, Thomas Meissen, c'est... on sait qu'on a posé la question pour d'autres espaces géographiques. Les Grecs ont-ils cru à leur mythe? Les Suisses croient-ils encore à leur mythe, justement, après tout ce travail de déconstruction que vous avez fait avec d'autres historiens qui vous ont précédé?
Bah, franchement, comme les premiers à faire ce travail de déconstruction ont commencé au XVIIIe siècle, et que beaucoup de gens citent, ça m'est arrivé que quelqu'un citait le sermon du Grütli dans Schiller pour me prouver que c'était réel. Franchement, mais c'est pas une majorité, bien sûr. Oui. Mais la force et l'importance politique, surtout, des conservateurs nationaux qui sont contre l'intégration de la Suisse en Europe, voire contre une adhésion à la communauté européenne, ils utilisent bien sûr ces mythes et cette idée de liberté défendue contre les mauvais voisins étrangers.
Si on veut être optimiste, on se dira pour l'Europe que le fédéralisme et le plurilinguisme n'empêchent pas un très fort sentiment national.
Pas tout à fait. On peut, si on peut élargir ce modèle, ce que je n'exclus pas, mais c'est un fédéralisme à trois langues. Et pour l'Europe, c'est à 27. C'est un peu plus difficile.
Merci beaucoup, Thomas Meissen. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut historique allemand à Paris depuis 2013 et que vous allez publier très bientôt aux presses universitaires du Septentrion une histoire de la Suisse qu'on peut trouver dans l'histoire du mois d'avril et qu'on peut le commander à votre siège, à l'histoire, l'article que vous avez consacré à ce sujet, comment les Suisses racontent leur histoire. Et puis surtout, il faut dire qu'en kiosque est sorti hier le numéro double de l'été, donc 19e siècle, le monde est à nous, qui évoque la question de la mondialisation au 19e siècle. Merci Thomas Meissen et merci à vous Valérie Hanin. On se retrouve la saison prochaine. Et nous commençons cette deuxième séquence de l'émission de ce jour avec ce titre de Kiyo Sakamoto qui s'intitule Sukiyaki et qui fut un tube planétaire numéro un des ventes aux États-Unis en 1963. Et on voit bien effectivement le mélange des genres, le mélange des styles qui a permis longtemps à des historiens et à des observateurs du Japon de penser effectivement de façon particulière la modernisation de ce pays à partir du 19e siècle. Nous sommes avec Pierre-François Souhiri. Bonjour Pierre-François Souhiri.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes donc historien, spécialiste de ce Japon et vous venez de publier donc un très gros livre, très intéressant, absolument passionnant dans la Bibliothèque des Histoires qui s'intitule « Moderne sans être occidental, aux origines du Japon d'aujourd'hui » où vous réfléchissez à cette idée de l'occidentalisation du Japon à nouveau frais puisque vous évoquez les travaux d'histoire connectée, les travaux d'histoire mondiale pour pouvoir mieux comprendre ce qu'a été cette occidentalisation à partir des années 1850-1860 au Japon et vous nous expliquez dans ce livre combien il faut s'appuyer en particulier sur la tradition, sur les classiques chinois pour mieux comprendre les débats qui ont eu lieu, car il y a eu beaucoup de débats vis-à-vis de cette arrivée fracassante des Occidentaux dans cet espace géographique, Pierre-François Souhiri.
Oui, tout à fait. Les Japonais qui se sont retrouvés donc confrontés à l'arrivée massive des Occidentaux à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, pensaient dans des catégories qui ne sont pas des catégories occidentales. Ils ont dû penser le phénomène de modernisation qu'on a souvent confondu avec l'occidentalisation avec des catégories donc qui ne sont pas du tout les nôtres. Et en particulier, à partir de formations intellectuelles fondées sur les classiques chinois et les classiques japonais. Mmh. Et donc, c'est avec les armes intellectuelles qu'ils avaient, qu'ils ont donc changé de logiciel, en quelque sorte, petit à petit. Mais ils ont toujours pensé dans ces catégories jusque, disons, dans les années 1920, où après s'est mis en place, dès la fin du 19e siècle, un système scolaire qui fait que les nouvelles élites intellectuelles qui apparaissent aux alentours de 1920 sont, elles, formées dans un logiciel différent qui est plus proche du logiciel occidental. Mais pendant toute la première partie de la modernisation, c'est-à-dire la fin du 19e, tout début du 20e siècle, les Japonais pensent dans les catégories confucianistes, voire essentialistes, romantiques, de l'avancée japonaise.
Alors, c'est extrêmement passionnant parce que vous rentrez très profondément dans la société intellectuelle japonaise pour nous montrer comment, dans ces années 1860, 1910, 1920, eh bien, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de débats. Et il y a des tentations autoritaires, mais aussi des tentations démocratiques. Et des tentations démocratiques qui s'appuient justement sur des visions qui sont des visions traditionnelles chinoises. Vous expliquez que, par exemple, certains samouraïs lettrés recourent au concept de voix royale qui proclame l'égalité de tous sous le ciel pour justement expliquer qu'il faut plus de démocratie, plus d'égalité dans la société japonaise qui sort du shogunat. Et là, il y a vraiment, dans votre livre, donc « Moderne sans être occidental », une vision très particulière que vous pouvez peut-être nous développer, Pierre-François Souhiri.
Oui, en fait, je suis parti de l'idée que, enfin, ce qui m'avait frappé en travaillant sur ces périodes, c'est que on a toujours l'impression, nous, vus d'Occident, que les discours occidentalistes, les traductions, donc les ouvrages occidentaux en japonais, ont façonné en quelque sorte la nouvelle idéologie, la nouvelle manière de penser. Or, en fait, je m'étais toujours demandé, mais pourquoi les gens qui ont mis en avant cette pensée occidentale ont toujours été rejetés au Japon ? Ils ont toujours été vaincus, d'une certaine façon, dans les batailles institutionnelles qu'il y a pu y avoir un certain nombre d'organismes, dans les ministères, dans les institutions diverses, aux archives nationales, etc. Et je me suis demandé pourquoi, finalement, ils n'avaient jamais réussi vraiment à prendre pied. Et donc j'ai été obligé d'aller plus loin en quelque sorte dans l'analyse et donc de regarder de très près les textes qui avaient été produits à cette époque, alors qu'ils sont évidemment en japonais du 19e siècle, ils ne sont pas toujours faciles à lire, mais enfin bon, je m'y suis un peu mis.
Donc c'est votre travail d'historien en tout cas.
Voilà, c'est mon travail d'historien et du coup j'ai découvert des choses, des figures en quelque sorte très différentes de celles auxquelles on pouvait s'attendre. Et en particulier ce mouvement pour la liberté et le droit du peuple, qui est un mouvement absolument essentiel dans le Japon des années 1880, qui vient relayer en quelque sorte au niveau des couches moyennes le programme de modernisation mis en place par l'État japonais après la restauration impériale de 1868. Ce mouvement donc pour la liberté et le droit du peuple est essentiellement un mouvement populaire de classe moyenne, de paysans riches et de gens vivant dans les nouvelles couches sociales qui émergent dans la société urbaine. Mais ces gens-là ont été fondamentalement formés dans le système qui précède, c'est-à-dire le système des Tokugawa. Et donc, toute leur catégorie mentale tourne autour de ces questions-là. Et donc, on invente en quelque sorte de nouvelles pratiques sociales en les légitimant avec évidemment les bagages intellectuels qu'on a à disposition. Donc, ça donne ces espèces de, comment dire, de choses tout à fait étonnantes où on voit effectivement le débat sur que nous, on traduit dans nos catégories le débat sur la Constitution, sur des élections libres. Eux, ils appellent ça, en fait, de leur point de vue, le maintien de l'harmonie. C'est la voie royale, c'est l'égalité de tous devant le ciel. Et donc, on s'aperçoit que finalement, le confucianisme, par exemple, peut-être le discours du conservatisme le plus profond, ou au contraire, un discours qui finalement mène à des pratiques démocratiques ou les justifie.
Alors, si on repart au tout début de cette période, au moment justement où arrivent avec fracas les armées occidentales dans cet espace géographique, comment cet électrochoc de l'arrivée des Occidentaux se traduit-elle d'abord au niveau du pouvoir central, mais peut-être aussi dans la société japonaise elle-même? Il y a une sorte d'effet de stupéfaction comme celui que l'on a pu connaître du côté de l'Égypte avec l'arrivée de Bonaparte. Est-ce qu'il y a cette idée comme ça d'entrée par fracas et donc de la volonté de rattraper, entre guillemets, ce que d'autres, dans d'autres espaces géographiques, ont appelé du retard, Pierre-François Souhiri ?
À vrai dire, les Japonaises, enfin ceux qui sont évidemment les mieux informés à l'époque, sont au courant de ce qui s'est passé en Chine une dizaine d'années auparavant, ce qu'on appelle ici la guerre de l'opium. C'est-à-dire que les armées chinoises ont été vaincues par les Britanniques et les Britanniques ont imposé donc des traités dits inégaux. Les Japonais savent qu'ils sont les prochains sur la liste, en tout cas ils s'en doutent, et quand les Américains arrivent, ils pensaient que ce seraient les Britanniques qui arriveraient, mais finalement ce sont les Américains qui arrivent avec une armada militaire. Là effectivement il y a un peu un effet de stupéfaction, mais en même temps ils s'y étaient un petit peu préparés, et donc ils essaient de procrastiner en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils remettent à demain ce qu'ils auraient pu décider aujourd'hui, de façon en quelque sorte à gagner du temps, et cette procrastination, en quelque sorte, des autorités shogunales apparaît comme un aveu de faiblesse à de nombreux samouraïs, ou en tout cas de gens qui réfléchissent. Et d'une certaine façon, par exemple, les autorités shogunales demandent à l'ensemble des daimyo, c'est-à-dire des grands seigneurs, leur avis sur ce qu'on doit faire vis-à-vis des occidentaux. Avec il y a deux questions. La première, c'est faut-il négocier avec eux, ou deuxièmement, faut-il leur faire la guerre ? La moitié des daimyo répondent « j'en sais rien ». Et les deux camps, à peu près, les deux autres camps se partagent à peu près, donc un quart pour la guerre, un quart pour la négociation, et 50% qui disent « je n'en sais rien ». Mais ça déclenche un débat, et ce débat est vécu, on est quand même dans une société féodale, comme un aveu de faiblesse de la part des autorités centrales. Mais débat, il y a. Et c'est ça qui est intéressant, c'était qu'à partir de ce moment-là, un certain nombre de guerriers, de samouraïs, vont rompre leurs attaches féodales et développer un discours qui est anti-occidental.
Pensé par eux-mêmes, d'une certaine façon, enfin dehors du cadre qui était prévu pour eux.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils pensent que l'un des problèmes de la société d'alors, c'est le maintien de statuts sociaux rigides qui ne fait pas place aux véritables talents. Et eux pensent qu'ils ont du talent, et ils en ont souvent d'ailleurs. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une sorte de comment dire, de réflexion révolutionnaire qui remet en question l'ordre de l'ancien régime, l'ordre féodal, et qui va déboucher sur la volonté de mettre en place un État unifié. Alors, on dit maintenant un État-nation, mais eux ne disaient pas ça. Ils disaient simplement il faut réunifier le pays. Parce que le pays était divisé évidemment en fiefs seigneuriaux, en principautés qui étaient quasi autonomes. Donc l'idée, c'est de reconstituer un État fort, en fait.
Alors justement, cette tension entre l'État et la société, est-ce que c'est une opinion publique qui est en train de naître dans ce Japon de la deuxième moitié du 19e siècle? Vous le mettez en débat dans votre livre « Moderne sans être occidental », Pierre-François Soury. En tout cas, ce que l'on voit en vous lisant, c'est une extrême mobilité d'une société qu'on a souvent imaginée comme figée, une société qui bouge d'un seul coup, avec des volontés étatiques d'un côté, des envois de missions à l'étranger pour pouvoir mieux comprendre les techniques occidentales. De l'autre côté, des débats internes à la société de la part de ces samouraïs très lettrés qui se disent qu'il y a peut-être là aussi une solution pour leur classe sociale, pour la vision qu'ils ont du peuple, par exemple, et que tout cela se met en musique de façon assez désordonnée et très, très animée en tous les cas, Pierre-François Souiri.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un effet paradoxal, c'est-à-dire que la société japonaise qui émerge dans les dernières années du 19e siècle nous paraît comme une société relativement bien intégrée où chacun est à sa place. Il y a un discours officiel, discours impérial, et puis les choses se mettent en place comme ça. Or, on mesure pas très bien à quel point cette société a été extrêmement perturbée. Certains historiens l'ont souligné, mais enfin, c'est peu connu en Occident, qu'entre 1853-54, l'arrivée des Occidentaux, et les années 1889, qui correspondent à la mise en place de cette nouvelle constitution, donc ce nouvel État japonais, ce nouvel État-nation impérial qui émerge, il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années pendant lesquelles les choses ont beaucoup bougé. Et des débats extrêmement riches ont eu lieu au sein de la société japonaise. Il n'y a pas une opinion japonaise figée et un peuple passif face à des dirigeants qui ont des grandes idées et qui les appliquent. Ça résiste, ça discute, ça débat. Et j'ajoute que ce débat, c'est extraordinaire, parce que le débat n'avait pas lieu dans la société féodale. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait nouveau qui apparaît. D'ailleurs, on invente des pratiques de débat c'est-à-dire des pratiques oratoires, la rhétorique en quelque sorte, pour convaincre une assemblée. On invente à ce moment-là des manières de faire, et ça choque un certain nombre de japonais conservateurs qui trouvent que c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Mmh. Donc on a effectivement un débat d'une très grande richesse, et c'est un petit peu ce que j'ai essayé de restituer dans la première partie du livre.
Est-ce que vous restituez très bien, d'ailleurs, Pierre-François Souiri, dans Moderne sans être occidental, parlez-nous par exemple de cette société de l'an 6 qui, selon vous, a joué un rôle important justement dans la prise de conscience de la nécessité à la fois de débattre, mais aussi de faire le lien peut-être entre la réforme des esprits souhaitée par certains et les intellectuels que sont certains des fondateurs de cette société.
Oui, alors en 1973, 1873, un certain nombre d'intellectuels japonais qui ont fréquenté l'Occident, qui y ont voyagé, rentrent au Japon et sont dans une attitude un petit peu expectative vis-à-vis du nouveau régime dont ils savent pas très bien dans quelle direction il va partir. Certains pensent que c'est simplement un changement de régime féodal. Il faudra plusieurs années avant qu'ils comprennent que ce nouveau régime qui se met en place est un régime qui a vraiment un programme de modernisation. Et eux sont donc fascinés par l'expérience occidentale, qu'ils ne comprennent pas bien, et ils décident donc de traduire tout ce qui leur tombe sous la main, en quelque sorte, et dans le plus grand désordre, en fait. Les ouvrages occidentaux, qui ne sont pas des ouvrages de science ou de technique, mais des ouvrages de réflexion intellectuelle, juridique, économique, politique, sur les sociétés occidentales. Donc ils traduisent, et en traduisant, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le vocabulaire pour traduire. Donc ils inventent des mots. Ils inventent des mots pour faire passer les concepts occidentaux en langue japonaise.
Il faut faire passer, par exemple, le concept de progrès de l'humanité, par exemple.
Ou bien de liberté. Et alors ils essayent, ils inventent dans le cadre de cette société de l'an 6, ils inventent donc des conférences publiques, ce qui n'existait pas au Japon avant eux. Donc on se réunit tel jour à telle heure dans tel endroit et quelqu'un prend la parole pour évoquer un ouvrage de langue occidentale qu'il est en train de traduire et il dit « Est-ce que vous comprenez si je dis ça comme ça ?» Et alors les gens réagissent en disant « Oui, non, on ne comprend pas bien en fait. » Et puis finalement, petit à petit, les mots se mettent en place et apparaît donc tout un nouveau vocabulaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce vocabulaire est évidemment hérité du chinois. Alors, soit il s'agit de d'anciens mots chinois qui sont réutilisés dans un autre sens, soit il s'agit de fabrication de mots chinois complets. Et c'est avec ces mots chinois inventés que le langage de la modernisation va donc se diffuser, paradoxalement, en Chine, en Corée et même au Vietnam. Donc, par exemple, le mot ziyu, qui à l'origine, dans le japonais d'autrefois, signifie tout simplement égoïste, va prendre une nouvelle dimension et devenir le mot liberté. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que ce mot liberté, c'est l'un de ceux qui traduisent John Stuart Mill, On Liberty, traduit en japonais, je crois que c'est en 1872. Et quelques années plus tard, le mouvement pour la liberté et le droit du peuple dont je parlais tout à l'heure met en avant ce slogan de ziyu. C'est-à-dire la liberté. Le mot qui n'existait pas 5 ans plus tôt devient le mot central du mouvement radical qui est en train de se développer. Ce qui fait qu'on a, c'est assez drôle parce qu'ils inventent le bain de la liberté, le médicament de la liberté, l'auberge de la liberté, etc., etc. Et donc, dans la topographie japonaise d'aujourd'hui, on retrouve certains de ces mots. Par exemple, à Tokyo, il y a un quartier assez connu qui s'appelle Jiugaoka, donc la colline de la liberté. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi cette colline pouvait bien s'appeler colline de la liberté. C'est un quartier assez branché actuellement à Tokyo. Et en fait, c'est un toponyme qui est né à cette époque-là du mouvement pour la liberté et droit du peuple. Donc, vous voyez l'importance de cette société de l'an 6 qui, grâce à ces espèces de débats en public, a réussi à faire passer un certain nombre de concepts occidentaux. Mais en même temps, cette société se termine sur un échec, c'est-à-dire qu'au bout d'un an et demi, elle est dissoute parce que les gens ont des avis, enfin les membres de cette société ont des avis trop différents sur la société elle-même. Et finalement, elle a fait d'une certaine façon son travail, c'est-à-dire qu'elle a contribuer à modifier les mentalités, puisque c'était ça qu'ils voulaient faire. Ils pensaient que la société japonaise était beaucoup trop soumise à l'autorité et qu'il fallait donc que les gens pensent par eux-mêmes, en quelque sorte.
Il faut briser les rigidités des statuts sociaux qui, selon eux, étaient maintenus artificiellement par le système féodal. Et il va y avoir un nouveau mouvement, plus radical peut-être, qui va naître. Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans le début de notre entretien, Pierre-François Souiri, ce mouvement pour la liberté et les droits du peuple qui s'inscrit, dites-vous, dès le départ dans une culture mondiale. On y fait référence à Rousseau d'un côté, on y fait référence aux États-Unis de l'autre et aux droits des Américains à ne plus être la colonie des Britanniques. Et donc il y a là une sorte de creuset qui lui aussi va se terminer sur un échec patent, le mouvement de la liberté, mais néanmoins qui aura brassé la société japonaise de façon assez profonde.
Oui, on a l'impression, 10 ans après le changement de régime, que la société, dans ses bas-fonds, dans ses tréfonds plutôt, a besoin de s'exprimer. Et donc, les associations se multiplient partout dans la société. Et l'un des objectifs de ces associations, c'est justement de faire prendre la parole, en quelque sorte. Hein. Alors, un historien japonais qui s'appelle Hirokawa Daikichi avait expliqué dans les années 1900, la fin des années 60, 1960, qu'il s'agissait d'une véritable révolution culturelle. Alors évidemment, il avait la Chine en face de lui, mais c'est pas tout à fait le même phénomène qu'en Chine, évidemment. Mais là, il s'agit vraiment d'une sorte de, comment dire, de reprise par les couches moyennes de la société, d'une volonté de sortir réellement du système féodal. C'est pour ça que cette révolution Meiji, c'est vraiment une révolution. Elle s'est pas faite de façon spectaculaire comme la révolution française ou la révolution russe. Il n'y a pas de prise du palais d'hiver. Mais il y a une sorte de mouvement qui dure en fait une vingtaine d'années, au cours duquel la société, en quelque sorte, reprend ses droits. Et dans ce cadre-là, on a une série d'associations, de discours, de meetings, d'agitations aussi, qui s'emparent de la société, chacun voulant mettre en place lui-même le futur texte de la Constitution, par exemple. On a ainsi, je ne sais plus combien, 350, je crois, projets de Constitution qui circulent dans le Japon aux alentours de 1882.
Oui, alors ça, évidemment, ils seront un peu déçus parce que la Constitution finale, celle de 1889, qui sera inspirée par la Prusse, ne sera pas exactement à la hauteur des attentes de ce débat que vous nous décrivez extrêmement vif, avec une prolifération d'écrits dans tout le Japon de ces années-là. Mais néanmoins, il y a débat d'idées, il y a discussion sur des thèmes très variés. La place de la femme dans la société japonaise, la question de l'asiatisme qui naît dans ces années-là, la place des militaires, de l'armée, du militarisme, le rapport évidemment aux Occidentaux, tout cela est mis en débat de façon très vive, comme vous nous l'expliquez, Pierre-François Souhiri.
Oui, il y a une tendance à revendiquer une forme d'autonomie sociale dans une société qu'on nous présente toujours comme relativement uniforme. Et c'est en ça que c'est très intéressant, cette partie de l'histoire japonaise, parce qu'on est vraiment dans la confrontation entre les idées et les débats, choses qui sont, tellement peu connues en Occident que je voulais vraiment le signaler. En faisant ce livre.
Oui, vous le signalez parce que effectivement, on sort de ce débat habituel sur l'occidentalisation. Vous montrez qu'il y a bien une voie japonaise à cette modernisation de la société et qu'elle passe par justement ces multiplicités d'écrits, ce qui était très peu fréquent auparavant, cette multiplicité d'écrits, de débats publics, de gens qui peuvent être d'accord avec l'occidentalisation voulue par le pouvoir, mais qui peuvent être aussi opposés, les déçus du Meiji, les gens qui s'interpellent justement sur ces questions-là, nourrissent aussi une presse qui va commencer à croître sur le modèle occidental.
Oui. C'est toute la contradiction de ce mouvement, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une volonté, que je dirais presque endogène, de la société de prendre en main elle-même son propre destin face à un État qui est en train de se constituer mais qui n'a pas une légitimité si affirmée que cela, à un moment où le culte impérial est encore balbutiant. Et donc, on a vraiment une sorte d'opposition entre c'est la société contre l'État, hein, d'une certaine façon, pour reprendre un titre célèbre. Et ça m'a beaucoup frappé. Il y a vraiment une manière interne de penser ce mouvement-là qui ne s'appuie pas sur des concepts occidentaux ou de façon relativement secondaire et latérale. Le plus beau cas qui soit, c'est celui de cette japonaise qui a une vingtaine d'années, qui s'appelle Kishida Toshiko, qui revendique dans le cadre de ce mouvement pour la liberté et les droits du peuple, qui prend la parole. Pour la première fois, une femme parle en public.
Absolument.
C'est la première fois que c'est jamais arrivé dans cette société-là. Et elle explique qu'une société moderne, elle ne dit pas une société moderne, une société civilisée ne peut se comprendre que dans une société où les hommes et les femmes auraient les mêmes droits. Et cette femme, qui est toute jeune, elle n'a lu que les classiques chinois. Et ça, on le sait. Elle n'a jamais lu un livre occidental. Il y en avait d'abord très peu qui étaient traduits à cette époque-là en japonais, mais elle ne les a pas lus. Autrement dit, elle s'appuie sur Mencius et sur Confucius pour évoquer l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Donc, en ce sens-là, il n'y a absolument pas occidentalisation de la société japonaise. C'est l'appropriation des concepts chinois qui débouche sur la modernisation. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre, nous, en Occident, parce qu'on a l'impression que le phénomène de la modernité ou de la modernisation, c'est l'Occident.
Et c'est en cela, d'ailleurs, que vous vous inscrivez, vous le citez plusieurs fois, dans les travaux de Chakrabarty ou d'autres, dans cette sphère de réflexion sur la provincialisation de l'Occident, en disant effectivement que nous avons peut-être des œillères quand on regarde ce Japon de ces années-là, parce qu'on veut y voir absolument soit les apports de la société occidentale à ce Japon, soit au contraire, si on conteste cette arrivée des Occidentaux, une contestation de l'impact des Occidentaux sur ce pays. Mais en tout cas, on veut y voir la présence massive de l'Occident, alors que vous nous montrez combien ça n'est pas tout à fait le cas, Pierre-François Souyri.
Oui, mais c'est tout. Par exemple, l'un des grands intellectuels de l'époque se rend dans les années 1860 aux États-Unis en Europe à plusieurs reprises. Trois fois, je crois bien. À San Francisco, en 1860, on lui fait visiter des usines. Et il dit, oui, ces usines américaines, elles sont intéressantes. Effectivement, ils produisent plus vite que nous. Donc, on devrait pouvoir regarder comment ça marche et aller assez vite. Mais je vois que mes petits camarades de la mission passent leur temps à mesurer l'écartement des rails de chemin de fer ou posent des questions sur le fonctionnement de la machine à vapeur. Mais tout ça peut se lire dans les livres. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi le fils du fondateur des États-Unis, personne ne sait qui c'est aujourd'hui. C'est-à-dire le fils de George Washington, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Personne ne peut me répondre à cette question. Ça, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que quand je mets une lettre avec un timbre dans une boîte aux lettres, ça arrive à destination? Mais comment ça peut marcher un système comme ça? Donc c'est ce genre de questions qui
l'interroge.
C'est pas la question de la technologie. La question de la technologie, ils savent qu'ils ont un peu de retard, mais qu'ils ont les concepts à peu près pour comprendre comment ça peut marcher. Ce qu'ils comprennent pas, c'est le système, c'est le fonctionnement de la société japonaise. Et c'est pour ça qu'ils font ce travail extraordinaire qui va se retraduire quelques dix ans plus tard dans cette société de l'an 6. C'est les mêmes, hein. Avec ces débats, cette réflexion sur les termes occidentaux, la fabrication de nouveaux concepts. C'est ça qui est en jeu. Donc, il y a vraiment une réflexion, en quelque sorte, qui vient de l'intérieur et qu'il faut tenir en compte de cette démarche intellectuelle pour comprendre pourquoi ils agissent de telle ou telle manière. C'est ça que je veux dire.
Merci beaucoup, Pierre-François Souyri, d'avoir présenté votre livre, un livre très important qui est publié chez Gallimard dans la Bibliothèque des Histoires, qui s'intitule donc « Moderne sans être occidental, aux origines du Japon d'aujourd'hui ». C'est la dernière fois que je ferai une des annonces dans lesquelles je dirai que cette émission a été préparée comme d'habitude par Aurélie Marcet et Marie-Vonne Bolivier. Je salue Marie-Vonne qui, après 12 ans de travail auprès de la Fabrique de l'Histoire, avec la Fabrique de l'Histoire, a décidé d'aller dans d'autres émissions de France Culture. Nous la saluons chaleureusement et amicalement pour tout le travail qu'elle a pu accomplir pendant cette douzaine d'années à nos côtés. Aujourd'hui, à la technique, Jacques Hubert, à la réalisation, Séverine Cassard. Je vous dis à tous et à toutes, à la rentrée, nous nous retrouvons le 29 août dans la Fabrique de l'Histoire sur France Culture.